Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Cette semaine, nous parlons d'un sujet incontournable qui préoccupe chaque femme, soit parce qu'elle l'a déjà vécu ou parce qu'elle craint pour sa sécurité. Le thème d'aujourd'hui est comment se reconstruire après une agression sexuelle. Oui, c'est possible. Pour en parler, je reçois Pierre Faubert, psychologue clinicien et psychologue conseiller et conférencier. Et après la pause musicale, je m'entretiens avec Nora Caron, qui est auteure de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La voix des travailleuses de lumière, publié aux éditions du Dauphin Blanc. Elle accepte de témoigner sur l'agression sexuelle qu'elle a subie. À tout de suite. Nous avons écouté Alexandra Streliski, Le nouveau départ. Bonjour Nora, merci
Bonjour,
d'avoir
Marthe.
Accepté l'invitation. Alors Nora, tu es auteure du livre, de plusieurs livres, mais dont le dernier, La voix des travailleuses de lumière, publié au Dauphin Blanc. Et aujourd'hui, tu viens témoigner de l'expérience qui a changé ta vie. Une des expériences qui a changé ta vie, parce que t'en as eu plusieurs, une agression sexuelle. Merci infiniment d'avoir accepté d'en parler. C'est pas toutes les femmes qui veulent le faire. Alors toi, tu t'es reconstruite et c'est pour ça que tu peux en parler.
Oui.
Quel âge avais-tu quand c'est arrivé?
J'avais 17 ans. Alors c'était ma dernière année au secondaire. Et puis j'étais une petite fille qui fêtait énormément. J'aimais la vie, j'aimais l'alcool, j'aimais les parties. Et puis, la vie m'a vraiment mis à terre, m'a enseigné certaines choses hein, sur le monde. Et puis, je pourrais dire que ce moment dans ma vie, ça a été mon premier éveil spirituel.
Ah oui.
Alors, même que ça a été un éveil très, très dur, mm-hmm. mais c'est ça qui m'a propulsée dans les mondes plus spirituels.
Oui, je comprends. Et comment ça s'est passé? Tu t'en allais chez toi après une soirée?
Exactement. Alors, je revenais de Montréal parce que j'étais une fille de party de Montréal. Et puis, j'avais pris quelques coups avec des amis. On avait l'habitude de sortir dans les bars tard le soir. Et puis, cette soirée-là, je me souviendrai toujours parce que j'étais quand même assez saoule. Alors, j'avais pas toutes mes facultés. Et voilà, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mis ma musique punk très forte dans mes oreilles et j'ai marché le long chemin à la maison.
C'était dans le temps des Walkman, hein?
C'est ça, les ouais. Walkman, les mm-hmm. vieux Walkman. Et puis, moi, j'avais tendance à écouter très fort ma musique.
Oui, comme tout.
Comme tout, toute oui. jeune personne, hein? J'étais...
Tout ado qui se respecte.
C'est ça. Puis, j'aimais beaucoup la musique, d'ailleurs. C'était une de mes façons de fuir la réalité qui était oui. assez dure à l'époque pour moi. Qui vivait de l'intimidation à l'école mmh. et une situation assez difficile à la maison. Oui. Et puis ce soir-là, donc j'étais dans ma bulle, hein, j'étais bien, j'étais, très euphorique de ma soirée. Et j'avais aucune connaissance ou conscience que j'avais été suivie.
OK.
Et puis ce qui est arrivé, c'est que tout d'un coup, on m'a pris par derrière. Et puis, au départ, mon cerveau m'a dit « Ah tiens, c'est ton ami Olivier qui vient de faire une petite blague okay, la nuit ouais. » parce qu'on avait tendance des fois à se faire des surprises comme ça au milieu de la nuit.
Fait que t'as même pas eu peur au début.
Au début, je me suis dit « Ben tiens, Olivier, il a pris du poids, là. T'sais, mm-hmm. il est plus fort que d'habitude. » Et puis, ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser que c'était pas du tout mon ami derrière moi. Et par
c'était
la suite,
un ennemi.
C'est ça, c'était vraiment un prédateur.
Ouais.
C'était un prédateur et j'ai pas eu connaissance de qui m'a pris cette nuit par derrière. Et puis, il m'a amené dans un petit boisé pas loin de où j'habitais.
Ouais.
Et puis, les choses, bien sûr, se sont défilées très, très rapidement. Alors, mm-hmm. j'ai que des petits segments là, dont je me souviens. Mais il y a une scène particulière qui m'a marquée, c'est le fait qu'il m'a mis un bandeau sur les yeux.
OK.
Et ça m'a particulièrement traumatisée, je crois, parce que j'ai perdu tous mes repères à ce moment-là.
Okay, oui.
Et là, j'avais plus idée où j'étais ou qu'est-ce qui se passait. J'ai eu très, très peur. Hein? Mm-hmm. C'est normal.
Ben oui.
J'ai eu très, très peur. Et puis, voilà, je me suis retrouvée à terre. Et puis, en claquant des doigts, là, j'avais plus mon linge. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. C'était une scène d'un film, je dirais, assez terrible,
ouais,
assez horrible.
Mm-hmm.
Et puis, ce qui est arrivé, c'est quand je dis que ça a été mon premier éveil spirituel, ce qui est arrivé, ça a été une réaction que je n'ai pas contrôlée. Mais j'ai sorti de mon corps. Je okay. me suis sentie sortir de mon corps, comme si un vortex m'aspirait vers le haut.
Okay.
Et j'ai entendu des voix qui me parlaient à ce moment-là. Et les voix m'expliquaient que je vivais une scène d'horreur mm-hmm. et il fallait me sortir de là.
Donc, c'est comme si tu devenais spectatrice
voilà.
de la scène.
Voilà, je suis devenue spectatrice et puis j'ai observé la scène d'en haut.
OK.
Et j'ai voulu rester là parce que évidemment je savais qu'est-ce qui se passait en
okay.
bas.
OK, finalement.
Et je me suis dit, ben non, moi, je retourne pas, là.
Mm-hmm.
Je veux rester ici. J'étais en paix, il y avait de la lumière, il y avait de la musique qui jouait, là. C'était
okay.
vraiment très paisible. Et d'un coup sec, j'ai eu un élan de dire, non, je veux vivre.
OK.
Je veux vivre.
Et là, je pense qu'il a essayé de te tuer. Hein.
Voilà, il y a eu une scène, quand je suis revenue dans mon corps, il y a eu comme un craquement, comme si quelqu'un, essayer de forcer ma tête contre une roche.
Okay.
Et c'est à ce moment-là que j'ai réintégré mon corps. Et je l'ai vu vraiment d'une craque en dessous du bandeau qui cherchait pour un objet pour ma cheville.
Oui.
Et à ce moment-là, comme j'explique dans La Voix des Travailleuses de Lumière, il y a eu un phénomène assez surnaturel, extraordinaire qui m'est arrivé. Alors j'ai parlé, mais ce n'était
parler.
Pas moi qui parlais.
Okay. Il y a quelqu'un qui parlait pour toi pour essayer
voilà.
de le raisonner.
Voilà.
Et ça a fonctionné.
Et ça a fonctionné. Ça a été une voix, je dirais, masculine qui est sortie de ma bouche. C'est
okay.
comme ça que je l'ai entendue. Qui lui a dit, pense à qu'est-ce que tu fais en ce moment.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire?
Et il s'est sauvé.
Et puis, l'homme a tellement eu peur qu'il a pris ses choses et puis il est parti en courant en marmonnant « Je suis désolée ».
Oh wow, OK.
Et moi, j'ai aucune conscience de qu'est-ce qui a été dit ce soir-là. Je me souviens vraiment de rien de qu'est-ce que j'ai dit.
Et qu'est-ce que tu as fait après? Tu es rentrée chez toi?
Voilà, je suis rentrée chez moi. J'ai couru, en fin de compte. Je suis partie en course. J'ai couru le plus rapidement de toute ma vie parce que je suis une coureuse. Alors, quand je cours vite, ça va vite. Je suis arrivée à ma maison. Ma mère m'a ouvert la porte et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Tu es grondée. »
Parce que t'es arrivée en retard.
Parce que t'es arrivée une heure en retard.
Et toi, t'as rien dit? T'en as pas parlé?
Non.
Tu te sentais?
J'avais pas une bonne relation avec ma mère. Je suis rentrée, bien évidemment, j'étais complètement déboussolée, désemparée, sous choc. Et puis, la seule chose que je me souviens, c'est que ma mère me disait « Tu n'as pas le droit de prendre une douche, il est trop tard. »
Oh! Et toi, tu voulais pas lui expliquer
Et j'étais incapable de lui parler.
Okay.
Incapable. On n'avait pas cette proximité, cette chaleur.
Donc, tu es allée te coucher, simplement?
Et je me suis couchée.
J'étais
en enfer, là. C'était vraiment un cauchemar.
T'as pleuré?
J'ai même pas pleuré.
Ah,
j'étais comme les yeux ouverts toute la nuit à regarder mon plafond. Puis je m'en rappelle même pas de cette nuit. Ça a été la pire nuit de ma vie.
Oui, je comprends. Reste avec nous, Nora. On va aller à la pause musicale, puis on revient. Et moi, j'aimerais savoir comment on se sort de ça.
Oui.
Merci. Thank you. Telco de Daniel Lannoy. Nous sommes de retour avec Nora Caron, qui est auteure de La Voix des travailleuses de lumière et qui a aussi vécu une expérience épouvantable, hein, faut le dire, une agression sexuelle. En fait, un viol, hein, parce que l'agression sexuelle, me semble-t-il, il n'y a pas de pénétration, et le viol, il y a vraiment, en tout cas, le dictionnaire fait une différence entre les deux. Alors, tu as passé la pire nuit de ta vie et le lendemain, comment on se sent? Qu'est-ce que tu as fait?
Oui, bien, c'est certain qu'on est dans un état où on est entre deux. Hein? On est comme entre le monde physique et un autre monde. Oui. Je pense que c'est comme ça que je me suis sentie pendant des semaines. Mm-hmm. Je me sentais un petit peu comme une zombie, à vrai dire. Oui. Hein? Si je peux décrire la sensation de zombie, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Je me suis sentie comme si ma lumière intérieure était éteinte.
Oui.
C'est comme ça que je me suis sentie spirituellement. Et puis, bien sûr, je ne pouvais pas rester seule avec cette expérience. Je ne pouvais pas en parler à mes parents.
Mm-hmm.
Alors, je suis allée voir mes deux meilleures amies au secondaire durant un dîner d'école.
Oui.
Et puis, on s'est assises en dessous de marche d'école. Et puis, je leur ai tout raconté. Et puis, mes amies ne savaient pas quoi dire.
Non.
Il y avait un grand silence entre nous. Et puis, par la suite, j'ai senti une distance se créer.
OK. Comme si tu leur avais fait peur ou t'étais différente d'elles?
C'est que tout à coup, elles réalisaient qu'on ne vivait plus dans le même monde.
OK. Alors, parce que toi, ça t'avait changé.
Moi, ça m'avait complètement transformée. Mm-hmm. J'avais réalisé qu'on ne vivait pas dans un monde féerique avec des anges partout. Ouais. Et
toi, tu étais dans la vraie réalité.
Voilà, j'étais vraiment propulsée dans la réalité, ce que j'appelle des hommes.
Oui. T'sais.
Et puis, dans cette réalité-là, eh bien, je voyais très bien qu'il fallait que je développe des nouveaux outils.
Hein, oui.
Parce que là, c'était où ça, où j'allais m'enlever la vie.
Oui. Est-ce que tu as consulté?
Alors, la première chose que j'ai faite, c'était vraiment parler à mes amis.
Mm-hmm.
Et j'avais une aide sociale à l'école, une
D'accord.
travailleuse sociale qui m'accompagnait. Et j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai pas pu tout raconter parce qu'elle connaissait ma mère.
Ah, okay.
Et j'avais
peur
qu'elle aille parler à ma mère.
Mm.
Et puis, bien sûr, comme beaucoup de victimes de viol, je ne suis pas allée à la police.
Mm-hmm.
J'avais trop d'humiliation et je ne trouvais pas les mots pour exprimer ce que j'avais vécu.
Oui.
Et puisque je n'avais pas vu mon agresseur, j'avais aucune façon de l'identifier.
Oui.
Tout s'est passé dans le noir très rapidement. Les yeux bandés. Donc, évidemment, je ne suis pas allée à la police.
Si c'était à refaire, Nora, est-ce que tu irais?
Absolument.
Oui, d'accord.
Mais absolument. Je trouve ça tellement important parce que ce que je crois, c'est que cet homme-là a sûrement dû faire la même chose à d'autres femmes.
Oui, assurément.
Et que j'aurais pu peut-être sauver quelques femmes de cette expérience-là. Alors oui, j'ai des regrets par rapport à ça. Mais voilà, c'est fait. Et puis, ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidée, c'est que je suis allée voir un de mes meilleurs amis, un gars qui s'appelait Marc.
Oui.
Et puis, j'ai raconté à Marc toute mon histoire et je lui ai dit, écoute, Marc, j'aimerais que tu sois mon vrai premier.
Oui, parce qu'il faut dire que tu étais vierge.
J'étais vierge.
Oui.
Et je suis allée le voir et j'ai tout raconté, mais le gars, il était comme sous choc. Il ne savait pas quoi dire.
Combien de temps après l'événement t'es
allée le
voir?
Un an plus tard. Alors, j'ai attendu à mes 18 ans, je suis allée le voir. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'aide parce que si je n'essaie pas d'avoir une vraie relation sexuelle, j'en aurai pas le reste de ma vie.
Oui.
Et voilà. T'sais, j'avais même considéré devenir lesbienne à un moment. C'était
ah oui.
un peu une blague, mais en même temps, je me suis dit...
J'imagine que tu n'es pas la seule.
Non.
Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent, qui
pense
sont passées par
ça.
Là. Puis il y en a peut-être qui sont devenues lesbiennes à cause de ça
oui,
aussi.
Oui,
hein?
C'est ça. Puis c'est vraiment une défense comme inconsciente.
Oui.
On se dit, on va s'éloigner des hommes, on
oui.
va aller vers comme notre
on
propre sexe.
On voit le danger,
sexe.
Là, oui.
C'est ça. Ben, je suis allée voir Marc, j'ai tout raconté à Marc, et puis il m'a pris dans ses bras et dit, écoute, moi, je suis là pour toi, ça va être un plaisir. de t'accompagner dans cette guérison. Et puis, il n'était pas mon copain, vraiment. On a eu quelques relations ensemble, mais c'était vraiment pour moi de la thérapie.
Oui.
Donc, ça a été un réflexe pour moi, tu vois, de faire ça. Un petit peu comme quand on tombe à cheval, eh bien, on essaie le plus rapidement possible de
oui.
se remettre à cheval pour ne plus être traumatisé.
Oui.
Ça m'a beaucoup aidé, mais je voyais que j'avais aucun plaisir
oui.
dans l'acte sexuel.
Mm-hmm.
Donc, 4 ans plus tard, ça a pris du temps. Je suis allée voir un hypnothérapeute et c'est là qu'on est allé au vif du sujet. Et puis, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose avec lui. Et c'était un homme aussi, donc j'étais inconfortable au début.
Oui,
mais c'est ça, finalement, de débloquer des choses. Et puis, à ce moment-là, 4 ans plus tard, j'ai rencontré mon premier copain, Damien.
D'accord.
Je l'appelle Damien parce que c'est pas son vrai nom, là.
Mm-hmm.
Et puis, je lui ai tout expliqué aussi, mon histoire. Et puis, je lui ai dit, il faut que tu sois patient avec moi parce que c'est pas quelque chose que je veux faire naturellement.
Mm-hmm.
J'ai pas naturellement le goût de me déshabiller et me mettre vulnérable, tu vois.
Avec raison, oui.
Et puis, il m'a écouté, il m'a compris, il a été très patient. Mais après, tu vois, 1 an, 2 ans, puis j'avais toujours pas d'orgasme. J'étais incapable.
Mm-hmm.
Et c'est là que j'ai entrepris un autre chemin, c'était plutôt énergétique avec des chamans.
Okay.
Alors, je suis allée consulter une femme chamane à Montréal qui m'a introduite au cercle des femmes.
Mm-hmm.
Et j'ai fait des cérémonies de feu sacré dans les tentes de sudation avec les Amérindiens.
Okay.
Et là, je te dirais que là, j'ai vraiment lâché mon intérieur. Là. J'ai crié, j'ai hurlé, j'ai pleuré.
Tout ce qu'il y avait à l'intérieur est sorti.
Tout est sorti dans les cérémonies amérindiennes.
Okay.
Parce que c'est vraiment, je crois que c'est une culture qui permet l'expression sans jugement.
Mm-hmm.
Et puis, je me sentais très à l'aise. D'autres femmes avaient été violées dans le cercle. Alors, on a pu partager. Et puis, c'est vraiment l'âge de 25 ans, 8 ans après l'événement, que j'ai décidé d'affronter la chose qui me terrifiait le plus, ma mère.
Okay.
Je suis allée voir ma mère et mon père et je me suis assise dans le salon avec eux. J'ai dit, j'ai quelque chose à vous raconter. Et je l'ai caché pendant 8 ans parce que je ne savais pas comment vous le dire.
Mm-hmm.
Et j'ai tout raconté et c'est là que pour la première fois de ma vie, ma mère s'est effondrée parce que c'était une femme allemande très dure, c'est pas très émotive. Et puis c'est la première fois que je l'ai vue tomber en miettes et me dire... Comment est-ce que j'ai pas pu voir qu'est-ce qui t'est arrivé?
Le fameux soir où elle t'avait
grondé.
Voilà.
Et puis là, il y a eu un rapprochement avec mes parents. Mon père était sous choc, il parlait pas, il pleurait, il disait « Comment est-ce que c'est possible?
Mm-hmm. »
Et puis, alors à 25 ans, j'ai senti la guérison totale de l'événement.
En l'avouant à tes parents?
Oui.
Ça a été un peu la
conclusion.
La boucle.
Mm. Oui, je dirais que c'était vraiment comme un livre. C'était comme premier chapitre, parler à mes amis, deuxième chapitre ensuite avec Marc. Tu sais, il y a eu plusieurs chapitres, mais je l'ai fait vraiment en toute conscience, en tout amour pour moi, en sachant que j'arriverais au bout à un moment donné. Mais moi, j'ai beaucoup aidé de femmes depuis parce que je sais c'est quoi vivre dans la honte, dans l'humiliation, dans le silence, dans la peur d'être jugée à cause d'un viol. Et puis, quand les gens viennent me voir en soins énergétiques, eh bien, je sais de quoi elles parlent.
Mm-hmm.
Et puis, je sais où aller, tu sais, pour faire du Reiki ou pour quoi que ce soit. Je sais où placer mes mains et puis je crois que ça fait vraiment du bien aux femmes.
Et présentement, ta sexualité, est-ce qu'elle est satisfaisante, normale?
Absolument, elle est très satisfaisante. Je dirais que dès l'âge de 25 ans, j'ai vraiment atteint la découverte de ma sexualité avec plusieurs partenaires, évidemment. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, j'ai un merveilleux copain avec qui je suis depuis 2 ans et demi. Et puis, on partage une très belle vie ensemble, très équilibrée.
Oui.
Et puis, souvent, il s'inquiétait pour moi. Il disait, mon Dieu, comment est-ce que tu as récupéré de ça?
Oui.
Et j'ai dit, j'ai récupéré parce que j'ai fait les étapes nécessaires. Je ne suis pas restée enfermée chez moi à pleurer, à m'arracher les cheveux, à pitcher des objets dans la salle. Alors, pour lui, il est très content, je suis très contente.
Donc, il faut, si je comprends bien, à travers ton témoignage, c'est qu'il faut en parler.
Il faut en parler, absolument.
Il faut se donner le temps aussi, je pense.
Le temps, puis il faut trouver...
Notre
méthode à nous de guérir sur tous les niveaux, parce que c'est, pour moi, c'était pas juste une question d'hypnose ou de feu sacré ou de temps de sudation ou d'expérience sexuelle avec Marc. C'était vraiment un tout.
Oui.
Ça a été vraiment... J'ai aussi lu sur ce sujet. J'ai fait quelques lectures. J'ai commencé ma vie d'étudiante en psychologie.
OK, oui,
à McGill,
pour comprendre.
Pour comprendre,
oui.
Tu vois, un peu plus le fonctionnement de l'être humain. J'ai fait 1 an, j'ai bifurqué après en littérature. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour guérir de cet événement. Mais je dirais que ça a été vraiment 8 ans de guérison.
8 années, oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut se donner le temps, puis c'est vrai que de manière générale, une femme qui est victime de viol ou d'agression sexuelle ou voudrait que ça aille vite, voudrait oui. aller mieux rapidement. Oui. Et c'est peut-être là un petit peu le comment je pourrais
le
dire?
Piège.
Le piège, oui.
Oui, parce qu'au fait, pour moi, quand on vit quelque chose comme qu'est-ce que j'ai vécu, mm-hmm. Eh bien, on peut pas penser qu'en 3 mois, je crois pas qu'en 3 mois ou 6 mois, on peut se remettre de mm-hmm. ça et tout à coup... Bang, ouais. tu sais, comme être disponible pour un autre homme ou une autre relation.
Ouais, ouais.
Pour moi, c'était le temps, c'était nécessaire d'intégrer l'expérience et puis de sortir du mode victime. C'est ce que je dis dans mon livre.
Oui.
Parce que j'ai interviewé d'autres femmes dans la voie des traverses de lumière qui ont eu des viols aussi pires que le mien.
Oui.
Et on dit tous la même chose, qu'à un moment donné, il faut accepter mm-hmm. ce qui nous est arrivé
ouais.
et ne plus être la victime.
Ouais.
Et donc, reprendre son pouvoir. Et je te dis, Marthe, pour moi, l'événement qui a marqué la reprise de mon pouvoir, c'est quand je suis retournée sur le lieu du viol avec,
ah oui,
avec ma chandelle blanche. Et puis moi, qui étais devenue très spirituelle à l'âge de 25 ans, mm-hmm. je me suis installée à l'endroit même où j'ai perdu ma virginité
oui.
et où on a essayé de m'achever.
Oui.
Et j'ai sorti ma chandelle et j'ai pardonné à l'homme. Mm. Je l'ai pardonné oh. En énergie, comme on dit en spiritualité, mais je le connais pas, je connais pas son nom. D'ailleurs, je veux pas non oui. plus le rencontrer.
Mais comment on pardonne, Nora?
Comment est-ce qu'on pardonne? Eh bien, moi, ça a été vraiment de lui expliquer que... Je le pardonnais pour moi parce que
donc,
je ne voulais pas rester le reste de ma vie en colère, mmh. Peur de tous les hommes, mmh. De craindre qu'un homme pourrait passer en arrière de moi, me prendre, etc. Donc, je me suis dit, ben là, moi, je le fais pour moi, le pardon.
Oui.
J'ai beaucoup pleuré, ça a été très difficile.
J'imagine.
Mais je lui ai dit, je te souhaite d'apprendre de toute cette noirceur que tu m'as fait vivre.
C'est
je
magnifique.
Souhaite que tu apprennes de cette noirceur et que tu ne le refasses plus jamais à personne.
Donc, pardonner pour se libérer. Quel beau message, Nora. Nora Caron, merci beaucoup.
Oh, merci
d'avoir
à
été
toi.
Ici, de venir en studio. Merci. Restez avec nous. Après la pause, nous accueillons Pierre Faubert, psychologue. Vous êtes toujours à Canalem, vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent. Vous aimez nos émissions? Vous pouvez les écouter sur le site de Canalem, sur vuesetvoix.com, sur marthesaintlaurent.com et en balado-diffusion. En deuxième partie, je m'entretiens avec Pierre Faubert, psychologue clinicien. Mais avant, nous écoutons Philippe Glass, From Insect to Whale. Thank you. Bonjour Pierre Faubert, psychologue clinicien.
Oui.
Encore avec nous cette semaine,
oui.
Pour mon plus grand bonheur.
Avec plaisir.
Alors Pierre, je pense que tu as entendu le témoignage de Nora Caron. Qu'est-ce qui monte?
Mais c'est d'abord bouleversant. J'écoutais ce que Nora disait et puis en même temps je me disais, mais qui suis-je en tant qu'homme? Hein, c'est quand même un homme qui l'a violé. Qui suis-je pour faire un commentaire après un témoignage aussi vrai, aussi touchant?
Oui.
Et donc, j'ai presque envie de m'excuser auprès des femmes pour ce que je vais dire, parce que je pense que le fait d'être homme, psychologue, ça me donne pas, moi, l'accréditation pour pouvoir être le meilleur commentateur sur ce genre d'événement-là. Par contre, ce que je peux dire, et je pense que toutes les personnes qui ont écouté peuvent dire que Nora est une femme courageuse.
Une survivante aussi, on peut
dire.
Oui,
une survivante qui a pris son temps aussi. Hein, enfin, elle a pris son temps. Elle a découvert pendant cette expérience qu'il fallait aller chercher à l'intérieur d'elle la ressource nécessaire pour sa propre guérison. Elle n'avait pas de plan préétabli. Je ne pense pas qu'on puisse se vanter d'avoir un plan parce que chaque personne est différente.
Oui, mais il n'y a pas de plan non plus.
Il n'y a pas de plan.
C'est ce que j'en comprends. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 3.
Non,
il n'y a pas
puis
ça.
Le viol, ça ne fait pas partie d'un plan non plus. Hein,
non plus.
Donc, ça vient jeter une immense pierre dans un étang tranquille. Et ça fait des vagues, et puis ça fait des vagues qui durent longtemps.
Mm-hmm.
Hein? Même si, elle peut en parler aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il reste que ça fait encore partie de sa vie.
Oui.
C'est une cicatrice. C'est une chose qu'il faut dire peut-être aussi, c'est que pour les personnes qui auraient tendance à vouloir bannir, parce que c'est un mécanisme, je dirais, tout à fait normal et naturel, de bannir de sa vie toutes ces choses qui, comme elle l'a dit elle-même, qui sont source de honte.
Oui.
Personne ne veut avoir honte. Je connais personne dans toutes mes années de thérapie. Je connais personne qui me dit j'étais heureux d'avoir honte. Ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, moi, ma théorie, c'est que nous sommes narcissiques parce que nous avons honte.
Mmh.
Et parce que nous avons honte.
Intéressant, ça.
Oui, nous avons honte et donc on cherche à cacher notre honte. Alors, donc, plus on est narcissique, et puis on en a des excellents modèles.
On n'aimera pas de nom.
On n'aimera pas de nom, c'est pas nécessaire, on les entend
surtout
déjà.
Surtout en cette journée.
Oui, c'est ça. C'est que plus on est narcissique, plus la honte est profonde et grande.
Mais c'est quand même spécial, Pierre, qu'on soit agressé.
Oui.
Qu'on soit... c'est aussi le même processus quand on est victime d'intimidation.
Oui.
Et puis que ce soit nous qui prenons ça sur nous. Donc, on a honte, on se sent sali,
oui.
On se sent responsable.
Oui.
On pense que c'est notre faute qu'on a provoqué. C'est quand même assez étonnant, ce processus-là de...
Oui, mais tu sais, Marthe, ça fait plusieurs semaines là, depuis que tu m'as dit qu'on ferait cette émission. Puis
oui.
Moi, j'y pense tous les jours, hein, parce que je me dis, waouh, c'est un sujet tellement, tellement délicat, tellement profond, tellement changeant de vie, hein, tellement traumatisant. Alors, je pense que, la honte est surtout, malheureusement, chez la victime. Ce ne sont pas les prédateurs ou les agresseurs qui ont honte.
Non, ils sont souvent dans l'inconscience.
C'est à ça que j'ai pensé dans les... quelques semaines avant de faire cette émission avec toi aujourd'hui, c'est que la honte n'est pas partagée.
Non, pas du
tout. Et si le prédateur ou le coupable se fait avoir, Mais si la honte, c'est parce qu'il s'est fait avoir, mm-hmm. et non pas à cause du geste qui est posé. Hein?
On en avait déjà débattu de ça.
Oui, bon.
Et c'est vrai que les prédateurs qui se font prendre, n'ont la seule honte qu'ils ont, c'est de se faire prendre. C'est pas d'avoir posé l'acte ou le geste.
Non, c'est ça.
Et c'est bien malheureux.
Oui. Puis j'ai beaucoup aimé quand Nora a parlé du retour à la scène du crime. C'est incroyable, parce que moi, avec les gens qui viennent me rencontrer et qui ont subi un trauma ou des traumas, c'est ce que je leur dis exactement textuellement. Je leur dis, bon, il faut retourner à la scène du crime.
On fait ça quand on est guéri quand même.
Non, on ne le fait pas quand on est guéri.
Ah non, on le fait
dans un processus de guérison.
OK, d'accord, oui.
Et puis l'autre affaire, c'est que d'accepter, comme elle l'a dit, d'accepter l'événement, l'expérience qu'elle a vécue, mais ça n'est pas l'approuver.
Non.
Puis ça, je pense, c'est une
distinction. Ah oui, absolument.
C'est distinction.
Pas la même chose.
Non, les gens pensent que je ne peux pas accepter. C'est inacceptable, non? On dit souvent ça, c'est inacceptable.
Oui, c'est vrai, ça fait partie de notre vocabulaire. Oui,
ça fait partie de notre vocabulaire. C'est inacceptable, mais il faut faire attention à ce qu'on dit dans le sens où les mots sont importants. Mais accepter, ça n'est pas approuver. Ce n'est pas parce que j'accepte, oui, j'ai été violée, mais ça ne veut pas dire que je l'approuve.
Non. On tombe un peu dans la résilience, c'est-à-dire j'accepte l'événement, mais je le prends pour me propulser, je le prends comme Nora, elle a développé sa spiritualité.
Oui, mais il y a quelque chose de spécial là, que Nora raconte, c'est que, si je comprends bien, elle n'avait pas beaucoup de soutien familial.
Ben en fait, les relations étaient tendues, si je comprends bien aussi.
C'est ça. Donc elle, là, depuis des années, là, elle est déjà préparée, pas pour un viol, mais elle est déjà préparée pour vivre de façon autonome.
Oui.
Autrement dit, parce que
elle
ne pouvait pas dépendre d'une grande ouverture affective de la part de ses parents, surtout de sa mère, d'après ce qu'elle a dit. Bien, il fallait qu'elle se fie à elle-même.
Qu'elle s'arrange par elle-même, oui.
Oui. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, le fait qu'elle parle de la dimension spirituelle, ça aussi, c'est important parce que c'est pas nécessairement religieux. On n'est pas en train de parler
non,
de religion.
Non, pas
là.
Du tout.
On est en train de parler d'une force à l'intérieur de nous que nous avons tous et toutes et à laquelle nous pouvons nous référer et dans laquelle nous pouvons puiser.
En cas d'épreuve,
c'est comme le fameux puits dans le désert qui embellit le désert dans le Petit Prince. C'est ce qui embellit ma vie, qui peut être terrible, c'est qu'il y a un puits quelque part en moi.
Oui. Ce à quoi s'accrocher, en fait, pour traverser le désert.
Oui, mais c'est pas tout le monde qui sait ça.
Mm-hmm.
Et même si on le dit, et même si toutes les personnes qui nous entendent le savent maintenant, ils vont se dire, mais il est où mon puits?
Oui, puis où le puits?
C'est ça.
Est-ce qu'il est au départ du désert, au milieu ou à la fin du désert, le puits?
Mais parfois, là, il faut juste un guide là, ou des guides pour nous dire, ben voilà, viens, on va aller au puits et puis on va aller puiser ensemble. Oui. Et je pense que c'est là que... C'est pas de devenir le puits de l'autre. Ça, ça serait de créer une dépendance.
Oui.
Mais de permettre à l'autre de trouver son puits à elle.
Un peu comme elle a fait avec son copain Marc, qui l'a aidé.
Oui.
Est-ce qu'on peut voir ça comme ça?
Oui, en fait, ça a été sa situation et sa solution originale.
Mm-hmm.
Et ben, tant mieux pour elle. C'est une chose qu'elle a beaucoup en elle, Nora, c'est cette espèce de débrouillardise.
Oui.
Hein, elle se débrouille très
elle
bien.
Elle veut s'en sortir.
Oui, comme elle nous l'a dit en sortant tantôt dans l'entrée du studio... Elle dit « Je suis une battante ».
Oui.
Et c'est ça, puis c'est vrai. C'est une battante. C'est pas parce que c'est Madame Univers, là, avec des gros muscles, mais c'est parce qu'elle a une force à l'intérieur d'elle qui...
Elle veut vivre. Et
je dirais, un bon sens.
Oui, et qui veut vivre. Reste avec moi, Pierre, on continue après la chanson.
Thank you.
C'était Eric Reed, Honesty. Alors, je vous rappelle le thème de l'émission, se reconstruire après une agression sexuelle, c'est possible. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Faubert, psychologue, et nous sommes en train de discuter et d'échanger pour voir comment on se reconstruit finalement après, après une agression sexuelle, après un viol, en fait, tout ce qui agresse une femme sur le plan sexuel. Et ma question est la suivante, Pierre, est-ce que c'est plus ou moins difficile ou est-ce que ça fait une différence selon, comme dans le cas de Nora, elle avait 17 ans, elle était vierge, donc c'est sa première expérience sexuelle. Est-ce que ça fait une différence avec une femme qui n'est pas vierge? Est-ce que, en fait, est-ce que ça change quelque chose?
Non, nous sommes toutes vierges par rapport au viol. Un viol, c'est une expérience, c'est toujours une première expérience et je ne crois pas qu'on s'habitue à ça. Et le viol, c'est vraiment la description, si vous voulez, de ce qu'est le trauma. Le mot trauma veut dire entrer par effraction. Oui. Et c'est ce que c'est un viol.
Oui.
C'est d'entrer par effraction dans un corps, dans le corps d'une femme. Ça peut être dans un homme aussi. Hein.
Oui, mais, il y a des hommes aussi qui sont violés.
Puis, mais là, on parle spécialement d'une femme, des femmes. Et c'est, c'est vraiment un abus de pouvoir. À la limite, ça n'est pas un acte sexuel.
C'est ce que j'allais dire, Pierre.
Oui.
C'est du pouvoir, c'est du contrôle, c'est de la domination pour moi, oui. Au-delà de la sexualité.
Ah oui, non, c'est... et puis, mais là, il ne faut pas faire le procès des violeurs, mais c'est évident qu'un violeur n'aime pas la femme. Il n'aime pas une femme. Il s'approprie de la femme et en fait son objet sur laquelle, ou lequel, ou laquelle, il exerce un pouvoir qu'il n'a pas habituellement.
Oui.
Et donc, c'est pour ça qu'il va l'attaquer, comme elle le dit, par en arrière. Il ne rencontrera jamais la femme de front.
Non.
Non, c'est toujours la surprise.
Oui.
Il ne veut pas se faire voir. Et puis, ce n'est pas juste une question de « Oh, j'ai pas envie qu'elle puisse m'identifier par après pour la police » et tout ça. Là.
Non, je pense qu'il pense pas juste
non, mais c'est parce que ce n'est pas une relation. Il y a aucune, c'est pas une relation personnelle.
Ah ben non, surtout pas.
Non, surtout pas. C'est une, c'est même pas une relation. Il y a pas de consentement là-dedans. Il y a pas de d'échange. Il y a pas de volonté de la part de la personne violée pour la participation de cet événement. C'est purement un exercice de force. Brut et je dirais même pas instinctif. Ce n'est même pas instinctif. C'est une perversion des instincts. Le viol est une perversion des instincts parce que l'acte de sexuel, ça devrait normalement être un acte d'amour, mais c'est tout le contraire aussi. C'est un acte de haine.
Oui, de haine et d'agression.
C'est une agression haineuse qui se sert du corps de la femme pour... arriver à exercer un pouvoir sur un corps qui est représentatif de la femme. Quelle femme? On peut l'imaginer.
Oui.
C'est souvent, malheureusement, la mère. Mais ça peut être d'autres femmes aussi. Alors donc, c'est ça. Et c'est pour ça que, si on peut, c'est pas, comment je dirais, une consolation, c'est loin de ça, mais si les femmes qui ont subi le viol peuvent comprendre que ça n'est pas elle au niveau de comme personne que cet homme-là cherche.
Oui.
C'est d'exercer un pouvoir absolu sur le corps d'une autre personne.
Et les dommages sont nombreux. On sait qu'il y a des dommages, évidemment, sur le plan sexuel, mais aussi l'estime de soi.
Ah ben, il y a tout ça.
Le psychologique, la sécurité, après, c'est la peur.
Ben,
il y a beaucoup de femmes aussi qui se font violer chez elles. Hein.
Oui, je m'excuse de parler en même temps que toi.
Non, il n'y a pas de problème. Je te sens emballé, Pierre, puis écoute, je
sais c'est quoi une agression sexuelle. Je l'ai été, moi, en tant que jeune, pas violé, mais c'est
agressé.
Ça, et agressé. Alors, c'est un sentiment d'impuissance totale. C'est même pas, comment je dirais, métabolisé, c'est même pas compris. Ça prend des années avant de comprendre une histoire pareille. Et le danger, et puis je pense que, sans le vouloir, Nora a dit, à un moment donné, je pense qu'elle parlait de Damien, elle oui. disait, j'ai tout expliqué mon histoire.
Oui.
Comme si l'histoire se résumait à ça. Mm. C'est pas, non, c'est pas vrai ça. C'est un événement dans son histoire
oui.
qui est regrettable, vraiment, qui est, je ne vais pas dire inacceptable, qu'il faut accepter, mais qui n'est pas, qu'on n'approuve pas. Mais ce n'est pas toute ma vie. Autrement
mais je pense
dit,
qu'il faut en parler quand même à notre conjoint.
Ah non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mon histoire.
Oui, d'accord.
C'est un événement de mon histoire.
C'est
parce que c'est sûr que ça vient éclipser beaucoup de choses dans la vie d'un individu, d'une personne, mais ce n'est pas tout. Mm-hmm. Je suis autrement que la personne violée.
Mm-hmm.
Et ça, je pense que toutes les femmes qui ont subi une agression ou un vol, un viol, devrait... Mais c'est un vol aussi.
Hein? Oui, c'est un vol. C'est un vol sexuel, un vol d'identité.
C'est un vol d'intimité.
De joie de vivre.
De joie de vivre. On vient voler une certaine innocence à la vie d'une personne. Et c'est dommage que ce soit comme ça que ça arrive. Mais heureusement qu'il y a des femmes comme Nora qui vont pouvoir en parler et faire en sorte qu'il y a une façon de se servir... Et c'est pas parce qu'il faut passer par là. Mais si jamais on passe par là, mais on peut s'en servir pour transformer cette ténèbre en lumière.
Est-ce que, Pierre, c'est plus difficile, compliqué ou peut-être même presque impensable de croire que plus ça fait longtemps que l'événement s'est passé, plus ça devient compliqué, difficile, voire même inacceptable. Il y a quand même des femmes aussi qui occultent cet événement-là, que ça leur revient... souvent on dit « Ouais, mais le délai de prescription est passé, ça fait trop longtemps, comment ça fait qu'elle se réveille? » Mais il y a des femmes que ça leur revient peut-être 20 ans plus tard, cet événement-là. Donc, ils ont occulté cette agression-là.
Ben
Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de se reconstruire et de guérir?
Ben absolument, puis Nora en est la preuve. Et il y en a beaucoup de femmes qui se sont reconstruites après des événements comme ça. Avec des situations qui ont été où, justement, elles ont été même séquestrées, puis elles sont devenues des esclaves sexuelles.
Mm-hmm.
Et puis on pense à Madame Kampusch, je me souviens, c'était en Autriche, qui avait été séquestrée très jeune, et puis je pense que c'est 10 ans plus tard qu'elle a été, qu'elle s'est enfuie, finalement. Alors, vous voyez, moi, je pense que les femmes sont capables d'une force incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les hommes les attaquent.
Oui, parce qu'ils ont peur, ils se sentent
menacés.
Parce que
les hommes ont peur des femmes.
Oui, ils se sentent menacés.
Ben oui, parce que la femme donne la vie, la femme est forte, et puis jamais, je pense jamais, la femme, dans le fond, elle abandonne.
Mm-hmm. C'est vrai qu'on est assez tenaces.
Moi, j'ai une admiration incroyable pour les femmes. Je pense que je passe de la peur à l'admiration.
Mm-hmm.
Et encore aujourd'hui, encore davantage avec cette histoire de Nora et d'être avec toi aussi, Marthe. Et puis, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui ont vécu des incestes pendant des années dans une famille.
Oui.
Totalement dysfonctionnel.
Ça, c'est une autre émission.
C'est aussi
puis,
un viol.
Oui,
c'est aussi,
ben absolument, tout
c'est
à fait.
C'est aussi des viols.
Oui, oui.
Et,
en bas âge, à part
en
ça.
En bas âge, oui. Et puis, mais dans un contexte toxique.
Sais-tu que le 2/3 des victimes sont âgées de moins de 18 ans?
Ah ben oui.
Dans les agressions, c'est une femme sur 3 a été victime au moins d'une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans.
Ah oui.
C'est inquiétant, ces chiffres-là, Pierre.
Oui, ben c'est pour ça qu'il faut en parler, comme tu fais, et puis comme on fait. Et puis, c'est une excellente chose. Puis, j'aimerais aussi attirer l'attention sur l'Institut national de la santé publique du Québec, où il y a une trousse médias sur les agressions sexuelles. Et c'est très, très bien fait. Et vraiment, là, à tous les niveaux, selon les différents niveaux d'âge aussi, que ce soit l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, avec les conséquences autant physiologiques, parce qu'il y a, une étude qui vient de sortir en septembre 2020 par des chercheurs, des femmes, je crois que c'est de Sherbrooke, qui ont fait des études sur les effets physiologiques de viol,
Oui.
Et que ces femmes-là avaient beaucoup plus de troubles génito-urinaires.
Assurément.
Oui, physiquement, oui. Oui. Et puis, sans oublier aussi les effets socio-affectifs et surtout émotionnels, psychologiques et identitaires.
Merci beaucoup, Pierre, d'être avec nous. Alors, un immense merci à mes invités. Donc, Nora Caron, auteure du livre « La voix des travailleuses de lumière » publié aux éditions du Dauphin Blanc, et Pierre Faubert, notre chroniqueur, psychologue, clinicien. Merci à toute l'équipe, sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon, à la recherche. Cherche Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous laisse sur cette citation de Christiane Singer. Rien ne nous est donné pour nous écraser, même si ce qui nous fait le plus souffrir nous délivrera un jour son autre visage. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.